France Musique. Open Jazz, Alex Dutille, France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Pierre-Antoine Badarou.
Bonsoir.
Le Umlaut Big Band sur le répertoire de Marie-Lou Williams, sur les compositions de Marie-Lou Williams, magnifique compositrice. Et vous nous l'avez dévoilé sur France Musique pour un concert qui était celui du Jazz Club d'Yvan Amar au tout début du mois de juillet. C'était un concert à la Cartoucherie. Depuis, il y a eu pas mal d'autres concerts. Et surtout, cet album qui est sorti, Marie's Ideas, au pluriel, un petit clin d'œil à la composition, Marie's Idea, l'idée de Marie qu'elle avait signée et arrangée à plusieurs reprises. D'ailleurs, vous en avez d'ailleurs repris plusieurs versions dans votre album.
Absolument, oui, on a repris, si je ne me trompe pas, trois versions, je crois, en 1930, en 1938 et... En 1946 à peu près, voilà, et c'est intéressant, on avait envie de l'appeler comme ça aussi parce que ça met l'accent sur...
C'est une conceptrice.
Voilà, c'est une conceptrice, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le choix du répertoire de ce disque, c'est montrer aussi le foisonnement des idées de Marie-Lou Williams,
voilà. Et sa modernité, moi c'est ça qui m'a sidéré quand je m'étais penché sur le sujet aussi dans mes Jazz Lady au sommet du mois de juillet, c'est à quel point elle a tout le temps, elle a évolué avec le jazz et elle a été une compagne de route du bebop après avoir été celle de l'époque swing. On l'a même vu à la fin de sa carrière faire un duel, si j'ose dire, avec Cécile Taylor à deux pianos. Enfin, c'est une femme qui a aussi bougé avec son temps.
Absolument, ouais, qui est restée toujours jeune. C'est ce que il y a un des chapitres du disque puisqu'on l'a découpé en chapitres comme ça qui s'appelle Eternal Youth. La jeunesse éternelle, qui était à la fois toujours jeune et qui est toujours restée proche des musiciens de son temps, de la nouvelle génération, qui a parfois joué le rôle de mentor, vraiment, pour certains, comme Monk et Bud Powell, mais qui a aussi toujours eu à cœur de jouer avec les jeunes et de faire de la musique pour les jeunes aussi. Ça, c'est quelque chose qui était très important.
Eh bien, ça tombe bien, parce qu'il y a plein de jeunes dans le Umlaut Big Band avec vous, Pierre-Antoine Badarou. Il y a 10 exemplaires à gagner de ce disque dont France Musique est fière d'être partenaire. Je poserai la question pour départager nos auditrices et nos auditeurs juste après qu'on ait écouté ce premier Marie's Idea, la version de 1930.
Thank you.
Mary's Heidi, version 1930 de signé Marilou Williams, est repris aujourd'hui par le Umlaut Big Band dans ce double album Mary's Heidi's sur le label Umlaut, d'ailleurs comme auquel vous êtes fidèle, Pierre-Antoine Badarou. On entendait successivement en soliste Brice Pichard à la trompette, Geoffroy Gesser au ténor, Antonin Trioang à la clarinette et Benjamin Doustessier pour le sax alto. Vous avez été tenté d'introduire un six mélodies sax, le saxophone alt, où ça n'existait pas dans les arrangements de Marilou Williams, peut-être.
Alors là, on a vraiment essayé sur tout le disque de respecter les orchestrations d'origine autant que possible.
Il a fallu les trouver.
Il a fallu les trouver et parfois les deviner même. Mais non, il n'y avait pas de six mélodies sax, en tout cas à ma connaissance, dans cet orchestre, puisqu'elle a écrit donc pour l'orchestre d'Andy Kirk. Avec qui elle a fait tous les débuts de sa carrière, et même un grand début, ça a duré 12 ans, je crois, une longue période. Et il n'y avait pas de six mélodies sax. Et ça, c'est une de ses premières compositions, écrites pour l'orchestre, qui est tout à fait étonnante. On entend, je trouve, l'influence notamment de Don Redman.
Auquel vous aviez consacré un premier volet
absolument,
il y a quelques années.
Notre disque précédent était consacré à Don Redman. Et c'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui est propre et très important pour Marilou Williams, c'est de s'imprégner, vraiment on l'a dit tout à l'heure, avec la jeunesse, son rapport à la jeunesse, mais aussi c'est vraiment une éponge. Et elle est capable de s'imprégner, d'absorber toute la musique qui est autour d'elle. Il faut savoir que ces morceaux, c'était une commande des producteurs, c'est-à-dire que l'orchestre d'Andy Kirk, de ce qu'on sait en concert, ne jouait pas du tout ce type de musique-là, mais plutôt de la musique douce, comme on disait à l'époque. Et les producteurs avaient besoin d'un orchestre, puisqu'ils étaient afro-américains, qui représente, selon les stéréotypes de l'époque, la musique hot, comme on disait à l'époque.
On va rester sur votre album, mais j'ai une question à poser pour pouvoir que nos auditeurs se départagent pour les 10 exemplaires que vous allez dédicacer tout à l'heure.
Avec plaisir.
Pour eux, voici quelle est la question à laquelle il faut répondre par l'onglet « Contactez-nous » sur la page Open Jazz sur francemusique.fr avec, en plus de votre réponse, votre adresse complète bien évidemment. Voici la question pour composer sa célèbre Zodiac Suite. C'était un peu plus tard, c'était en 1940. Marilou Williams avait dédié chacune des 12 pièces à des amis musiciens nés sous le même signe. Et quel est parmi ces trois signes le mouvement de sa suite qui est dédié à la fois à Dizzy Gillespie, Art Tatum, Bud Powell et Thelonious Monk? Ça fait une sacrée brochette, hein. Et je l'ai traduit en français, donc, puisque les noms des signes du zodiaque ne sont pas tout à fait les mêmes. Première hypothèse, la lettre B avec balance, la lettre G avec gémeaux, ou la lettre P avec poisson. Balance, gémeaux, poisson, quel était le mouvement de la Zodiac Suite qui était dédiée à Gillespie, Tatum, Bud Powell et Thelonious Monk? on a changé d'époque. C'est toujours la musique de Marie-Lou Williams, mais là, c'est un arrangement de 1977, quelques années avant sa disparition. Et c'était vous, Pierre-Antoine Badarou, qu'on entendait au sax alto. Il y avait au piano Mathieu Nolot et Gabriel Levasseur était à la trompette. Et là, tout d'un coup, on comprend comment, de 1930 à 1977, il y a un gouffre de sonorité et puis une audace qui était là en 1930 et qui est encore là en 1977.
Absolument, oui. Là, on entend vraiment une sorte de jazz modal post-coltrénien, presque par certains égards. Ce qui est amusant aussi.
La pulsation aussi.
Ouais. Tout à fait. Les cycles, une liberté par rapport à la pulsation que, évidemment, elle n'avait pas en 1930. Enfin, c'est pas le même rapport, on va dire, à la pulsation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la version originale de cette composition, c'est, si je ne dis pas une bêtise, sur un disque de Buddy Tate du début des années 70. Et c'est vraiment il me semble que c'est Harry Edison à la trompette, ou enfin c'est des
papilles, musiciens plus conservateurs.
Voilà, des musiciens vraiment de swing, comme elle d'ailleurs, et qui jouent sur un disque, un répertoire plutôt swing. Et il y a ce morceau qui est la composition de Marie-Lou Williams, qui est d'un seul coup beaucoup plus moderne, mais dont en même temps ces musiciens-là s'emparent de manière remarquable.
On va arriver à mi-chemin, 1948, Lonely Moments.
Thank you.
Emil Strandberg à la trompette, Michael Ballu au trombone, Benjamin Doustessier au baryton et Geoffroy Jesser au ténor, les quatre solistes de ce Lonely Moments arrangé par Marie-Lou Williams pour l'orchestre de Duke Ellington. Ça me semblait évident, et c'est vrai. Et c'était en 1943 et pas 48, comme je me l'étais écrit par erreur. Pierre-Antoine Badarou, je suis admiratif de la qualité de son que l'on a. On a l'impression qu'on est là, assis au premier rang, que le son n'a pas été trafiqué, qu'on a juste le son naturel de l'orchestre. Est-ce que c'était un parti pris délibéré ?
Absolument, je suis ravi que vous disiez ça, puisque c'est ce qu'on a recherché d'une certaine manière, c'est de garder l'équilibre acoustique du groupe, de finalement quelque part pas surproduire. On a enregistré dans une configuration à la Philharmonie de Paris, dans un des magnifiques studios de la Philharmonie.
Qui a l'avantage d'être grand.
Absolument, oui.
Pour un big band.
Et on a enregistré dans une configuration qui est vraiment proche de celle qu'on a en concert, avec quelques petites modifications, évidemment, mais on enregistrait tous dans la même pièce, c'était important. Pas de casque, et on voulait que la prise de son, le mixage, restitue ça. Et je trouve que le potentiel sonore d'un big band, il est aussi rendu par cet aspect-là, et il est rendu assez, on peut dire fidèlement, bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, on a essayé de le rendre vivant et agréable à écouter aussi.
Ça s'entend, et en plus, ça donne envie de danser. Scorpio, l'un des mouvements de la fameuse Zodiac Suite.
Thank you.
Je me demande si à l'aveugle, j'aurais pas dit que c'était George Russell qui avait composé et arrangé ce Scorpio. Et c'est en 1946. Elle l'avait écrit pour l'orchestre d'Andy Kirk, Marie-Lou Williams. Et les solistes que vous avez sollicités, Pierre-Antoine Badarou pour ce Scorpio, c'est Geoffroy Jesser et Anthony Tréhoing pour les clarinettes. Et on retrouvait Michael Balu au trombone. Comment vous avez fait pour retrouver tous ces arrangements? Ils étaient conservés quelque part? Il y avait un coffre-fort aux États-Unis ou
presque.
Vous les avez trouvés sur Internet? Comment vous avez fait, inspecteur
Badarou? Non, on a la chance de... Enfin, c'est un fait assez remarquable dans l'histoire du jazz, c'est que Marie-Lou Williams a quasiment tout gardé de ses archives à partir d'un certain moment. Archives personnelles, que ce soit des manuscrits musicaux, mais aussi sa correspondance, ses tickets de pressing, ses robes, etc. Et tout ça, à sa mort, a été... pas tout à fait à sa mort, mais plus tard, a été légué à l'Institute of Jazz Studies, qui se trouve à Newark, dans le New Jersey, qui est un des grands centres de recherche pour le jazz. Donc on a pu aller avec Benjamin Doustessier consulter ces archives-là. Donc on a consulté les manuscrits, on n'a malheureusement pas eu le temps de consulter ces bandes, puisque par exemple il y a toutes ces bandes avec beaucoup de choses inédites. Il y a aussi toute sa correspondance, tout ça, enfin voilà, on n'a pas pu tout voir, mais en tout cas on a consulté ces manuscrits. Et c'est à la fois quelque chose qui permet de se rapprocher de Marie-Lou Williams, de développer une sorte d'intimité aussi.
Ça doit être avec très émouvant.
C'est très émouvant, absolument. Et ce sont des témoignages, très forts de la vie de Marie-Lou Williams aussi, puisqu'ils sont chargés de toute la musique, mais aussi tout ce qu'il y a autour, des annotations, des numéros de téléphone qui sont griffonnés à droite à gauche, des dessins que parfois elle fait. Et puis, on voit le processus de travail, ça c'est ça qui était passionnant, c'est-à-dire qu'on voit, c'est beaucoup... Enfin, le fond d'archives est pas... Il est ordonné, mais il est très foisonnant, et c'est beaucoup d'esquisses aussi, et donc il y avait tout le travail qui consistait à reconstituer le puzzle, puisqu'on a des fois des choses où on a une page sans titre, il faut essayer d'arriver à trouver avec quoi ça va. On n'a pas de date, on n'a pas de... Donc voilà, il y a tout un tas de choses à recouper.
C'était un travail de musicologue, comme on en fait sur la musique baroque.
Absolument, ouais, d'une certaine manière, c'est ça, effectivement. Et c'est... Moi, je suis convaincu que dans la manière dont on écrit l'histoire du jazz, en tout cas, ces documents-là sont souvent très peu pris en compte. On a beaucoup travaillé sur le biais de l'enregistrement. Et on sait que l'enregistrement témoigne d'une certaine partie de la vie des musiciens, mais seulement d'une certaine partie, sous certaines conditions. Et les partitions sont pourtant des objets qui ont, dans le cas de Marie-Lou Williams, qui ont accompagné toute sa trajectoire et donc qui nous disent beaucoup sur sa musique. Par exemple, on se rend compte qu'il y a des périodes où elle n'a pas enregistré, mais elle a continué sans cesse à écrire et à avancer, justement, à avoir de nouvelles idées.
Stardust en trio. Thank you. complètement étonnant, cet arrangement sur le Stardust signé Marie-Lou Williams avec un trio qui est trompette, piano, contrebasse. La trompette, c'était celle de Emile Strandberg. Mathieu Nolo était au piano et Sébastien Bella à la contrebasse. Vous aviez retrouvé cet arrangement, parce qu'on n'a jamais entendu cette version-là jusqu'à présent, Pierre-Antoine Badarou.
Alors, comme la majorité des morceaux qui sont sur le disque, c'est des choses qui n'ont pas été enregistrées, ou dans des versions un peu différentes, voilà. Donc celui-là, oui, on l'a retrouvé, et comme pour pas mal de morceaux, il a fallu reconstituer, puisque celui-là, par exemple, était très fragmentaire, je me suis vraiment basé sur une esquisse. Je crois qu'il y a... il me semble assez clair que dans ces partitions, elle n'écrivait pas de partie pour elle. Elle écrivait des brouillons, des esquisses.
Il n'y avait pas la partie
elle,
de piano.
Elle avait ça, non, il n'y avait pas la partie de piano. Elle avait ça, elle suivait avec ça. Donc, c'est ça qu'on avait et une partie de basse, voilà. Incomplète, je crois. Voilà. Donc, après, à partir de ça, j'ai reconstitué. J'ai réussi à recouper aussi parce que. Pour avoir l'instrumentation, puisque j'ai vu que ça correspondait avec d'autres morceaux qui ont été enregistrés par le même trio, c'est la même écriture, c'est le même papier, c'est...
La même époque.
Et donc la même époque. Et donc c'était ce trio qu'elle avait, qui a enregistré un petit peu pour Moash, là, pour Folkways, qui était avec Bill Coleman à la trompette et Al Hall à la contrebasse, qui est un trio magnifique, je trouve. Voilà, et je trouve que c'était... C'est un arrangement qui est tout à fait singulier et surtout qu'on le met en regard dans le disque avec un autre arrangement de Stardust pour Big Band. Mmh. Où on retrouve des choses et ça montre bien aussi comment est-ce qu'elle a pu, elle a sans cesse réadapté ses idées et retravaillé les choses.
Le Umlaut Big Band ressuscitant les arrangements de Marie-Lou Williams dans Mary's Idis. Voici Rosamée. Rosa May, avec un solo du saxophoniste ténor Pierre Borel, qui, comme vous le disiez à l'instant, s'était emparé de son rôle et habité vraiment cette composition de Marie-Lou Williams. Un dernier extrait pour aujourd'hui de ce Mary's Heidi, signé du Umlaut Big Band sous votre direction, Pierre-Antoine Badarou. Et moi, je trouve très attachant que vous ayez, sur les deux CD, fait des petites parties, des sous-parties, qui permettent d'ailleurs d'écouter comme des petites suites, 5 par 5 ou 4 par 4, les compositions, elles ne sont pas chronologiques, mais elles disent beaucoup de qui était Marie-Lou Williams. Il y a par exemple une partie qui s'appelle Variation in the Blues, une autre Casey pour Kansas City, une autre Prélude to Duke pour ce qu'elle a fait avec lui. Là, ce qu'on entendait, c'était dans le chapitre Eternal Youth, la jeunesse éternelle, vous insistiez là-dessus, ça a dû être un sacré exercice d'arriver à répartir ces compositions comme ça en petits chapitres, Pierre-Antoine Badarou.
Et oui, disons que ça a été plus simple à partir du moment où j'ai eu l'idée des chapitres, je dois dire. Ça m'a permis justement, j'avais pas envie de faire une conduite chronologique, surtout sur deux CD. Et puis j'avais aussi envie de trouver une solution qui facilite un petit peu l'écoute, c'est-à-dire puisque c'est assez conséquent, il y a 2h30 de musique en tout.
Avec des formats différents en plus. On a entendu un trio, on a entendu un big band, mais il y a des formations intermédiaires.
Oui, il y a des petites formations. Il y a l'orchestre de chambre qu'on a monté là pour l'occasion pour interpréter une partie de la Zodiac Suite dans son orchestration d'origine. Voilà, et c'est en fait les thématiques sont donc les chapitres, les thématiques sont pas exclusives, c'est-à-dire qu'on peut aussi c'est plus des thématiques pour appréhender l'œuvre de Marie-Lou Williams et voilà.
Merci de nous la faire aimer si on ne la connaissait pas ou si on ne l'aimait pas déjà. Et on a souvent, quand on connaît déjà Marie-Lou Williams, on a l'impression qu'elle est une musicienne des années 30. En fait, vous faites la démonstration que c'est absolument pas le cas et qu'elle a effectivement traversé 50 ans d'histoire du jazz.
50 ans, ouais.
Et elle a jamais été en retard sur son temps.
Absolument.
C'est un beau programme. Et Pierre-Antoine Badarou, surtout ne jetez jamais vos tickets de pressing. Hein. J'ai retenu la leçon. En tout cas, la question que je posais pour gagner l'un des 10 exemplaires des disques, c'était quel était le mouvement de la Zodiac Suite qui était dédié à la fois à Gillespie, Tatum, Bud Powell et Thelonious Monk. La bonne réponse, c'était le signe de la balance. Libra en anglais. Bravo, parce que c'était pas si facile, à Christophe Gallet de Crancé dans l'Aube, Edwige Caraz d'Alissa en Ardèche, Baya Tamini de Perreux-sur-Marne dans le Val-de-Marne, Luc Wittenbrook de Floressa, c'est dans le Lot, Didier Ginolin de Lyon, Jean-Yves Lande du Vaudreuil dans l'Eure, Vincent Marco de Dax, c'est forcément dans les Landes, Damien Giraud de Romans dans la Drôme, Renate Borg de Sète et enfin Norbé de Freux ou de Fré qui vient de Gand en Belgique. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à signer quelques petites dédicaces pour nos 10 gagnants.
C'est parti.
Pierre-Antoine Badarou, merci d'avance.
Open Jazz, Alex Dutille, France Musique.
Et pendant ce temps, un nouvel épisode de notre Symphony Hall Concert inédit de Harold Garner en 1959 à Boston. I can't get started. 17 janvier 1959 à Boston, au Symphony Hall, l'un des 9 inédits qui nous sont livrés aujourd'hui, vendredi exactement, par le label McAvenue. C'est I Can't Get Started, Errol Garner au piano, Eddie Calhoun à la basse, Kelly Martin à la batterie. Et quand vous avez entendu Errol Garner, Pierre-Antoine Badarou, il y avait un lien avec Marie-Lou Williams.
Oui, c'était un protégé de Marie-Lou Williams. Ils sont de Pittsburgh tous les deux. Enfin, Marie-Lou a grandi à Pittsburgh. Et c'est pas tout à fait la même génération, mais en tout cas, Marie-Lou a beaucoup échangé. On le voit justement dans les archives, dans la correspondance, dans les manuscrits. Elle était très proche d'Errol Garner. Donc.
Elle a été très proche de beaucoup de musiciens. Hein. Ouais. Je pense qu'elle était au cœur de la vie musicale de son vivant, je pense.
Absolument, oui.
Il y a des concerts et des festivals. Alors d'abord, vos concerts à vous, Pierre-Antoine Badarou, avec le Umlaut Big Band. Le prochain, ça va être le 9 octobre, à la Philharmonie de Paris. Et puis alors, il y a un truc très chic, c'est que vous jouerez en première partie du Jazz at Lincoln Center de Wynton Marsalis. Oui. Il n'y a pas de pression particulière, mais en tout cas, c'est classe.
C'est classe, hein, ouais.
De se trouver au même concert. Et puis le 14 octobre, vous serez à Brest, à l'Atlantic Jazz Festival. Du coup, je pense que je ferai écouter d'autres extraits de ce Maris Ideas que vous sortez sur le label Umlaut. Autre festival en ce moment, je vous en parlais les jours précédents, à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, le Anglet Jazz Festival qui se passe au Théâtre Quintao, vendredi, double plateau. C'est la formation de la chanteuse Sarah Lankman avec Giovanni Mirabassi et Olivier Bauger. Et il y aura le quartet d'Erel Besson en deuxième partie. J'ai 2 invitations à vous proposer par l'onglet Contactez-nous sur la page Open Jazz sur francemusique.fr. Sarah Lankman.
Dis-le-moi, il faut se quitter. Mais oui, dis-le-moi, et viens m'embrasser. Parfois l'amour ne suffit pas, mais peut-être que l'on se reverra. Dis-le-moi, je t'aimerai toujours. Je veux vivre tes nuits et faire rêver tes jours. 1000 fois je n'osais détester. Allez viens, tout ça c'est du passé. Dis-moi comment faire pour ne plus y croire. Maintenant que j'ai découvert comme une femme dans tes bras. Découvert ce que c'était d'être à deux.
Sarah Lankman dans une de ses chansons « Dis-le-moi » dans l'album « Parisienne ». Elle est donc au festival de Anglette vendredi, au même programme que Erel Besson. Nos deux invités sont Christian Achigar et Jean-Noël Camiade. Erel Besson est au même programme, qui sera d'ailleurs la semaine prochaine, mercredi 22, à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Et puis j'ai aussi des invitations pour les Parisiens, pour ce même vendredi, au studio de l'Ermitage à Paris, Laurent Rochelle avec son groupe Prima Canta. N'hésitez pas, il ne vient pas souvent à Paris et c'est une bonne occasion, le Prima Canta de Laurent Rochelle. Manifestez-vous par l'onglet « Contactez-nous » sur la page Open Jazz. Prima Canta de Laurent Rochelle dans la mélodie du Tao. J'ai déjà un invité pour ce concert à l'Ermitage vendredi, c'est Julien Melchi. N'hésitez pas à vous manifester, même après la fin de l'émission, on fait toujours suivre les noms des heureux bénéficiaires des invitations. Avec moi pour faire cet Open Jazz, Maïwenn Le Géant, Frédéric Kiefer, Gérard Chan, Emmanuel Lacaze et Fabien Flora. Demain, c'est Thomas de Porcory et son Supersonique. Et merci encore à Pierre-Antoine Badarou.
Merci.
Vive Marie-Lou Williams.
À réécouter sur francemusique.fr.